Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, on va consacrer une partie de notre émission à la nouvelle numérotation des chaînes à l'arrivée de T18 dans le paysage audiovisuel français. Ça sera vendredi. Mathieu Croissando, un des visages de cette nouvelle chaîne, sera en ligne avec nous dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Grégoire Bonnet à l'affiche de La Manière Forte vendredi sur France 2 sera avec nous. On parlera évidemment avec lui aussi de scènes de ménage. Le créateur et réalisateur de Plaine Orientale, la nouvelle création originale Canal+, qui a démarré lundi dernier, sera avec nous. Pierre Leccia sera notre invité. Et puis on parlera également de Zonze, qui vient de débarquer sur France.tv, une toute nouvelle série ambitieuse, avec Tiffaine Davio, qui viendra nous en parler. Et puis en fin d'émission spéciale, Le Répondeur, le tout nouveau film de Fabienne Godet, qui sera notre invité avec Salif Cissé. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et c'est un bouleversement de taille qui attend les téléspectateurs sur la TNT vendredi avec une renumérotation des chaînes qui aura eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, donc vendredi matin. Eh bien, il y aura quelques changements. Alors, lesquels, justement, changements? Eh bien, toutes les chaînes infos seront maintenant ensemble entre le canal 13 et le canal 16. BFM TV ouvrira le bal au canal 13, CNews au canal 14, LCI au canal 15 et France Info au canal 16. France 4 remonte également au canal 4. Et puis Gulli également remonte du canal 18 au canal 12. La chaîne LCP Public Sénat, elle remonte au canal 8. Et puis vous retrouverez toutes les autres chaînes sur leurs canaux habituels. Et puis deux petites nouvelles vont se tailler la part du lion et vont débarquer. Une à partir du 1er septembre, c'est Nouveau 19. Mais on va parler surtout de T18. T18 qui donc ouvrira vendredi soir à 19h45. La chaîne sera notamment incarnée par Laurent Ruquier, mais également avec un talk show quotidien tous les soirs avec Mathieu Croissando, transfuge de BFM TV, qui est justement en ligne avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Mathieu, vous êtes un des visages en tout cas de cette nouvelle chaîne, puisque vous allez y présenter, pour tout dire, tous les soirs du lundi au vendredi à 22h30, un véritable talk show culturel et d'actualité que vous allez nous proposer toute la semaine.
Oui, alors je vais vous retrouver tous les soirs à 22h30 pour un talk show d'actualité quotidienne qui va couvrir tous les champs d'actualité. On va pas se spécifier sur une thématique seulement. On va parler de société, on va parler de politique, bien sûr, on va parler d'économie, on va aussi parler d'enjeux internationaux. Et puis, on va parler de toute la France. On va pas parler que de Paris. L'objectif, c'est de décrypter l'actualité pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps dans la journée de se poser et qui ont été juste alertés sur leur téléphone portable. Et bien, leur dire à 22h30, voilà les trois gros thèmes qu'il faut retenir aujourd'hui. Et voilà comment on va essayer de les décrypter avec vous.
C'était l'idée, justement, de pas se retrouver en face tous les autres talk shows pour éviter peut-être la concurrence, mais aussi acquérir un véritable auditoire à cet horaire-là.
Oui, alors c'était l'idée surtout de se retrouver à 22h30, parce que c'est vrai que c'est un moment où l'offre télévisuelle est moins pléthorique qu'entre 18h et 20h, ça c'est une chose, mais c'est surtout que c'est un temps de la journée où on a le temps de se poser un peu, on a passé évidemment sa journée de travail, on a retrouvé sa famille, on a dîné, et on se dit à 22h30, il y a tout un public qui est là et qui a envie d'entamer une deuxième partie de soirée avec une émission d'actualité qui les aide à comprendre. Nous, on ne veut pas dire aux gens comment réfléchir, on ne veut pas dire quoi penser, on veut les aider à réfléchir. L'idée de réunir autour de la table tous les soirs des experts, mais aussi des praticiens, des chefs d'entreprise, des gens d'université, des gens de la société civile qui vont nous aider à décrypter le monde qui nous entoure et qui est souvent de plus en plus compliqué, avec des sujets qui concernent les Français, pas des sujets d'experts très pointus, mais des sujets qui percutent le quotidien de chacun et qui peuvent concerner la santé, l'éducation, la politique, je le disais, le rapport au travail, l'économie, le pouvoir d'achat, bref, donner des clés pour comprendre.
Mathieu, est-ce que ça sera une émission en direct ou pas, ou est-ce qu'elle sera enregistrée un petit peu avant dans la journée?
Non, alors l'émission sera en léger différé puisqu'elle sera enregistrée un peu avant et diffusée à 22h30, justement dans cette case qui nous paraît propice. Vous savez, à ce moment où on a envie de comprendre, on a envie de débat, on n'a pas non plus envie de pugilat. L'émission sera évidemment animée, elle sera vivante. Moi, je cherche des gens qui ont des convictions, parce que les convictions, ça nous aide à nous forger une opinion, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'ailleurs. Mais en revanche, moi, je veux que ce soit une heure plus calme, et 22h30, c'est parfait pour ça, parce que on a le temps de développer une argumentation, les gens n'attendent pas du catch, du clash. Moi, je veux que ce soit une émission qui nous aide collectivement à nous rendre plus intelligents.
Oui, à réfléchir et à pouvoir justement se poser sur des sujets de société. Il y aura des sujets aussi culturels?
Alors, il y a une émission culturelle sur la grille de T18, qui est celle qui est animée par Laurent Ruquier.
Oui, le samedi amateur.
Donc moi, je vais évidemment lui laisser tout ce champ-là à investir. En revanche, nous, on va pouvoir traiter les questions de culture à partir du moment où elles impactent, où elles reflètent la société. Il y a des séries télévisées aujourd'hui qui traduisent particulièrement bien des problèmes, je pense. Je sais pas si vous avez vu la série Adolescence sur Netflix qui raconte tous les problèmes des adolescents d'aujourd'hui, le rapport aux réseaux sociaux. Donc, nous, on pourra aborder la culture quand elle aura évidemment cette fenêtre ouverte sur la société. Mais on n'aura pas d'artistes qui viendront faire de la promotion ou nous présenter leur dernier disque ou leur dernier livre.
Est-ce que c'est excitant, Mathieu, justement, quand on sort d'une des plus grandes chaînes info de France et que de se retrouver dans un challenge d'une toute nouvelle chaîne, d'avoir tout à faire? C'est un challenge excitant, j'imagine.
Alors, c'est très excitant, c'est très enthousiasmant, parce que d'abord, c'est une émission qui se crée, mais dans une chaîne qui se crée. Donc, c'est une aventure humaine absolument formidable. T18 a réuni toute une somme de talents et de professionnels qui m'impressionnent. Tout le monde est entièrement dédié à lancer cette nouvelle chaîne avec le plus grand succès. Ensuite, d'un point de vue personnel, moi, c'est très excitant. On me confie les rênes d'une émission d'une heure et demie tous les soirs. C'est un moment de mon parcours professionnel qui change. Moi, j'ai fait de la télé pendant 5 ans, vous l'avez cité, dans une chaîne info en tant qu'éditorialiste politique. Puis j'avais travaillé aussi un peu en termes d'animation sur une autre chaîne qui s'appelle Public Sénat. Et là, j'ai la chance de pouvoir animer ce talk show d'actualité pendant 1h30. Donc, c'est absolument extraordinaire.
Comment est l'ambiance là, aller à une centaine d'heures du lancement de la chaîne? Est-ce que l'ambiance est joyeuse, studieuse? Comment vous trouvez tous?
En général, non, elle est joyeuse, parce que il y a un esprit sur cette chaîne qui est une chaîne qui sourit. Alors sourit, ça veut pas dire sourire bêtement, mais ça veut dire que tout le monde est très content d'être là et tout le monde est en train de visser les derniers boulons, de régler tout ce qu'il y a à faire. Alors comme d'habitude, c'est un peu le rush, hein. Vous savez, quand vous lancez quelque chose, je vais pas vous dire que tout est prêt et qu'on est là le doigt sur la couture du pantalon en attendant le jour J. Mais non, les réglages se font jusqu'au dernier moment, mais vraiment dans un bon esprit, avec oui, une excitation d'un bébé qui va naître et qu'on ne sait pas, dont on n'a pas encore vu vraiment la tête, puisqu'on la verra à l'antenne. Donc c'est assez amusant. Et puis encore une fois, moi, on peut s'appuyer ici sur le parcours de très grands professionnels de la télévision, que ce soit évidemment dans la direction, mais dans tous les métiers, y compris, regardez, les animateurs, aller chercher Laurent Ruquier, quel beau symbole pour la chaîne.
Oui, qui va ouvrir d'ailleurs la chaîne, on le rappelle, à 19h45, donc vendredi soir, avec C'est maintenant, et puis qui sera suivi du film Yves Saint-Laurent avec Pierre Niney, qui sera suivi, pour tout dire, à 22h30, avec vous Mathieu, évidemment. Puis samedi soir, on aura une soirée théâtre, avec la pièce de théâtre Ramsès II, interprétée par François Berléand, Eric Elmosnino et Evelyne Buil. Et puis dimanche soir, ça sera une nouvelle soirée cinéma qui nous attendra sur T18, avec le film aux 7 Oscars, Everything, Everywhere, All at Once. Oh là, mon anglais, c'est terrible.
Pas facile à prononcer.
Ah non.
Mais un film assez étonnant et assez percutant. Et bien, à l'image de T18, tous les programmes que vous venez de citer, ça montre bien la diversité de cette chaîne, qui est une chaîne généraliste avec une offre différente.
Et il y aura une soirée débat sur la charge mentale dès lundi prochain, d'ailleurs aussi avec avec une soirée débat. Donc voilà, il y aura plein de choses, des soirées documentaires, des soirées fiction. Voilà, T18, la nouvelle chaîne qui débarque. Ça sera donc vendredi dès 19h45 avec Laurent Ruquier et à 22h30 avec vous, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
À très bientôt, Alain.
On se dit à bientôt, merci. À très vite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. Pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste sans savoir danser. Ça commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour une, toi et moi. Mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite. Mon amour et mon karma.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser à Plaine Orientale qui revient ce soir pour un troisième épisode inédit sur Canal, nouvelle création que vous avez peut-être découvert en tout cas lundi dernier avec les deux premiers épisodes. Pierre Letzia, le créateur et réalisateur, est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un retour aux sources sur Canal+, après Mafiosa, de découvrir cette toute nouvelle série qui met en scène Inès et Hereda, demi-frères et sœurs, qui se retrouvent, qui, on va dire, même ne se sont jamais quasiment connus, et vont œuvrer tous les deux, vont pactiser pour tenter de mettre un terme à la mafia corse, mais je crois que ça va pas être gagné, évidemment. Mais en tout cas, comment est venue l'idée de départ, Pierre, déjà, pour commencer?
Alors, j'avais envie de continuer à creuser le sillon sur les histoires autour du grand banditisme en Corse. Et je me disais que passer par le prisme d'un personnage qui est à cheval sur deux communautés et qui n'arrive à trouver sa place ni vraiment dans l'une ni vraiment dans l'autre, c'était une bonne manière de raconter l'histoire. D'autant qu'on pouvait la coupler avec ce personnage de la sœur d'Inès, qui est sa demi-sœur qu'il ne connaît pas. Lui, il est voyou, elle est magistrate et va se mettre en place entre eux un pacte à très haut risque qui va être très compliqué pour l'un et pour l'autre.
Alors Pierre, dans toutes vos créations, en tout cas, que ce soit avec Mafiosa ou là encore avec Plaine Orientale, la famille est vraiment toujours au cœur. Il y a quelque chose de très familial, viscéral dans vos séries.
Oui, c'est vrai, mais après, c'est des ressorts mythologiques. La famille, la vengeance, voilà, c'est des archétypes de personnages. Et c'est vrai que tout est beaucoup plus compliqué quand ça se passe en famille. Souvent, la famille complique les choses. Les histoires en famille sont beaucoup plus compliquées que les histoires avec les gens qu'on ne connaît pas. les affrontements, pareil, les trahisions, idem. Et donc, voilà, c'est un accélérateur de particules, la famille. Et c'est vrai que je voulais parler de cette famille. Lui, en plus, là, il est à cheval sur deux familles, c'est-à-dire que son père est en Corse, sa mère est en arabe, il est à cheval sur les deux communautés. Les Arabes le trouvent trop corse, les Corses le trouvent trop arabe à leur goût. Voilà, tout ça compliqué avec cette sœur qu'il n'a jamais vue. Voilà, c'est un bon moyen de booster l'histoire.
Et puis, il y a toujours un méchant dans toute bonne histoire. Et là, c'est Carlotti hein, qui est pas en reste.
Oui, il y a toujours un méchant. Alors après, moi, je fais toujours attention. Je suis le conseil d'Hitchcock qui disait il faut soigner son méchant. Je rends jamais les très méchants d'un côté et les très gentils de l'autre.
Ouais.
On essaie toujours de rendre les choses plus
nuancées.
Plus nuancées, c'est-à-dire que voilà, il y a des méchants qui sont parfois assez sympas avec les leurs, comme c'est le cas. Et puis il y a ceux qui sont rangés du côté de la loi, qui peuvent faire des coups très tordus. Voilà, c'est toujours entre gris clair et gris foncé. On essaie d'éviter l'écueil du binaire, en fait.
En tout cas, Eric Fraticelli, il est incroyable. Il est génial.
Oui,
on l'adore déjà dans ses films. On est très fan d'Eric, hein, et je dois dire que là, il est bluffant.
Mais moi aussi, mais là, il a composé un personnage qui est froid, déterminé, tout en étant extrêmement gentil et doux avec les siens. Il a un petit côté diabolique, là. Voilà, il a réussi à composer ce personnage. On sait jamais trop ce qu'il pense. On sait jamais trop s'il va vous faire un bisou, s'il va vous vider un chargeur dans la tête.
C'est
voilà,
ça.
C'est un type qui avance extrêmement masqué et qui est capable de choses horribles.
Alors, dans les premiers épisodes, en tout cas, qu'on a pu voir, on a vu effectivement donc ses retrouvailles. Reda est sorti de prison hein, dans les deux premiers épisodes. Il essaye de renouer avec son ancien complice, qui est le second de Carlotti, un parrain qui règne en maître sur le nord de la Corse. Et il va essayer de trouver sa place dans ce monde de voyous. Mais ça a beaucoup changé, surtout au moment où sa demi-sœur, donc Inès, débarque à Bastia et qui, elle, est juge. Et qui va se faire un cheval de bataille, c'est mettre un terme effectivement à cette mafia corse. Et évidemment, ça va pas être facile. C'est ce qu'on a vu en tout cas dans les deux premiers épisodes. C'est une menace en tout cas sur la famille de Reda qui va planer sur ce troisième épisode qu'on va découvrir ce soir.
Oui, parce que voilà, c'est un personnage qui a passé 10 ans en prison à la suite d'un braquage. Et quand il sort 10 ans après, il est rentré à 20 ans, il sort à 30 ans. Les choses ont beaucoup changé, les choses ont beaucoup évolué dans le grand banditisme. Alors après, il n'y a pas, quand on parle de mafia corse, c'est vrai que c'est pas un film sur la mafia corse. Parce que d'abord, il n'y a pas de mafia corse au sens Cosa Nostra du terme. Il y a des équipes liées au grand banditisme, mais il y a un système mafieux dans certaines équipes qui sont plus élaborées que d'autres. Mais le système de la voyoucratie en Corse, c'est plutôt, si on devait parler de mafia, c'est pas du tout une mafia verticale, pyramidale, comme Cosa Nostra,
ouais.
Voilà, comme la mafia américaine. C'est très horizontal, c'est un peu comme la dranguette. D'ailleurs, c'est des équipes, certains font, il y a des équipes de 10, il y a des équipes de 25, des équipes de 30, mais il n'y a pas un big chef qui, tout le temps, domine tout le monde. Par contre, ponctuellement, il y a des individualités qui sont plus redoutables que les autres et qui arrivent à imposer aux autres leur ligne de conduite. C'est le cas de Carlotti, voilà.
En tout cas, Pierre, la Corse est magnifiquement filmée encore une fois. Et vos deux comédiens, ils sont incroyables. Raphaël et Lina marquent parfaitement cette dualité. Ils sont très beaux tous les deux à l'écran, en tout cas.
Oui, ils sont très beaux. Je me rappelle quand je les ai vus tous les deux en essai. Ils sont beaux, bons, ils sont attachants, ils sont déterminés, ils sont touchants. Quand je les ai vus tous les deux en essai, un samedi après-midi, et qu'ils ont commencé à faire leurs essais, j'ai compris tout de suite que c'était eux, c'était évident. Voilà. Après, pour la Corse, évidemment, c'est la première actrice qu'on a engagée. La Corse était là avant tout le monde. Et Raphaël, en plus, il a, on peut en parler parce qu'il l'a dit lui-même dans des interviews, il a cette originalité d'avoir un père corse qui est de Castaniche et une mère algérienne, comme Reda. Donc, moi, je parle très souvent corse avec Raphaël. Quand il est avec ses copains issus de l'immigration, ben, il parle arabe. Et donc, voilà, évidemment, il y a eu un écho... entre lui et ce personnage, ça a résonné, ça a matché, parce que il comprenait la position de Reda. Et puis, concernant Inès, Lina, elle est un peu comme Inès. C'est une fille brillante, qui a fait de la musique, qui a fait de la danse, qui a fait du journalisme. C'est une fille déterminée, qui percute très vite. C'est une fille, quand elle dit « je suis major de promotion », on la prend sur parole. Voilà, et ça a matché énormément... ça a très très bien matché entre eux, en fait.
Et puis il y a un casting absolument fou autour de Inverse Battens, évidemment, et puis Antonia Desplat qu'on a pu découvrir dans Made in France il y a pas longtemps sur France 2, Rachid Gelaz. Il y a vraiment un très joli casting aux côtés d'Eric Fraticelli,
oui,
Raphaël et Lina.
Aurélien Gabrielli, Cédric Capiette, Henri-Noël Tabary, Véronique Volta, voilà. tout ça, ce sont des gens que je connaissais. Certains, on les a vus dans Mafiosa. Alors, ils sont passés de voyous à flics ou le contraire. Donc voilà, et puis on a voulu faire cet équilibre entre, voilà, c'est des Corses qui jouent des Corses. Et voilà, après on a trouvé cette perle rare qui est Raphaël Aklop, qui est touchant, déterminé, attachant. Voilà, parce que moi je n'aime pas les personnages de voyous qui sont juste des sales mecs guidés par le pouvoir, par l'argent. Ce n'est pas le cas de Reda. On voit pas ça chez Raphaël quand on le voit jouer, quoi. C'est avant tout un type qui est dans la vengeance. Il essaie de rééquilibrer les choses, en fait. Ben, en fait, il va s'allier aux plus faibles pour faire vaciller les plus forts.
Pierre, Engrenage et Mafiosa ont fait partie un peu des séries cultes de Canal qui ont marqué un tournant dans la qualité de la fiction française aujourd'hui qu'on peut découvrir et se sont inscrits sur plusieurs saisons. Est-ce que Plaine Orientale, dans vos rêves les plus fous, vous avez envie de le développer sur plusieurs saisons comme ça? Ou moi qui n'ai pas vu la fin, en tout cas, des 8 fois 52 minutes, est-ce que c'est une histoire qui va être bouclée au bout des 8 épisodes?
Alors, Plaine Orientale, c'est une histoire de famille, et moi et Nicole Collet avec Canal, c'est aussi une histoire de famille. Voilà, c'est des gens avec qui c'est très agréable de travailler, qui nous font confiance, on se connaît, ils nous connaissent. Voilà, moi j'ai travaillé avec eux sur Mafiose, après j'ai travaillé avec eux sur une autre série, puis maintenant sur Plaine Orientale. Plaine Orientale est parti, voilà, pour faire un triptyque. Évidemment, vous verrez à la fin... La fin est structurée, conçue de telle façon que il y a une suite. Donc après, voilà, là, ça, c'est là, on travaille déjà sur la suite, on est en écriture de la
saison 2. L'idée, c'est qu'il y ait 3 saisons, du coup.
L'idée, c'est qu'il y ait un triptyque, voilà. Qu'il y ait un début, un milieu, une fin, comme souvent dans les histoires, c'est ça l'idée.
On va découvrir en tout cas la suite des aventures de Reda et Inès hein, ce soir. Ça sera donc à 21h sur Canal+, à sa Plaine Orientale. Merci Pierre en tout cas d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait, la bande-annonce, et puis on se dit à bientôt.
Merci infiniment à vous. Bonne journée, au revoir.
Eva Martens, responsable du pôle antimafia.
Vous êtes sorti major, vous auriez pu choisir un service plus prestigieux. Pourquoi Bastien ?
Bien la petite sœur. On s'est pas vu depuis 21 ans. Et tu débarques ici pour me dire que tu vas être juge ? Inès, tu sais ce que je fais ? Alors tu cherches quoi ?
César Carlotti. Son nom est évoqué dans pas moins de 7 assassinats. Officiellement, cet homme n'existait pas.
Et notre coup de cœur télé consacré à La Manière Forte, un téléfilm inédit qui sera diffusé vendredi soir à partir de 21h10 sur France 2 avec Clarisse Lonibot qu'on connaît bien dans l'émission, mais aussi Grégoire Bonnet qui est avec nous. Bonjour Grégoire.
Coucou, bonjour.
Mais quel bonheur vendredi Grégoire de passer une soirée exceptionnelle qui commencera dès 20h30 sur M6 avec Scène de Ménage avec Philippe évidemment et qui continuera et suffira juste à la fin de Scène de Ménage de changer de chaîne et d'aller sur la 2 pour découvrir Thierry Chevalier dans La Manière Forte. En tout cas, on peut dire que c'est un personnage qui a du chien, hein, j'ai l'impression.
Thierry. Oui, oh non. On a beaucoup rigolé avec Lionel Olinga, donc qui est l'auteur et le producteur de la série La Manière Forte. On a beaucoup ri en inventant ce personnage. Enfin, tout le mérite revient évidemment à l'auteur, mais on a beaucoup ri en pensant un peu à un flic à l'ancienne, un peu homophobe, un peu balourd, mais drôle, toujours drôle, et puis assez brillant, un flic un peu à l'ancienne, quoi.
Et qui aime le risque, parce qu'il est toujours à deux doigts de se faire brûler la merguez, quand même. On n'en dit pas plus, mais... on va dire que le personnage est quand même, on va dire un brin naturiste quand il fait ses barbecues.
Oui, exactement. Et en plus, normalement, on voit mon cul, mais ça a été coupé par France 2.
Mais c'est pas possible.
Pour vous dire la vérité. Oh non, c'est un personnage assez drôle, assez solitaire, un peu à l'ancienne et tout. Et avec Clarisse, on a pris un pied monumental à jouer ces deux personnages à Angoulême, quoi.
Alors, il faut dire, en fait, que ces deux personnages sont complètement aux antipodes l'un de l'autre, mais que celui de Clarisse Lonibot vient un peu en remplacement de celui de Thierry Chevalier, qui lui est à la retraite depuis un an et qui va devoir reprendre du service pour enquêter sur un meurtre qui porte la même signature qu'un tueur qu'il a mis derrière les barreaux auparavant. Donc évidemment, elle va revenir le chercher, mais elle s'attend pas du tout à ce qu'elle va trouver, évidemment.
Non, c'est ça qui est drôle. C'est vraiment qu'on est aux antipodes tous les deux. Et puis, va se créer petit à petit une complicité entre nous qui va être super. Je parle des personnages, hein, bien évidemment, parce qu'avec Clarisse, on s'est tout de suite très, très bien entendu.
Bon, en tout cas, qu'est-ce qui vous a plu en premier quand vous avez lu le scénario en attendant dans ce rôle de Thierry?
Ah, j'ai adoré. Il y a des trucs qui ont été supprimés parce qu'il y a des trucs qu'on allait plus loin avec Lionel. On a rigolé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai tout de suite dit « Ah, enfin quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, des séries de flics, c'est toujours un peu la même chose, les gens sont gentils ou des méchants. Lui, il est plus complexe parce qu'en fait, il a énormément de défauts, c'est ça qui est fou. Mais on l'aime bien quand même, on l'aime bien détester, moi, je trouve. Mais oui, moi, je le trouve très attachant, ce mec, il est un peu hors du temps, hors de tout, on sait pas très bien qui c'est, voilà, quoi.
Bon, il faut dire que la Charente accueille bien, hein, on le sait, et que ce film est peut-être le pilote de ce qui pourrait devenir peut-être une série, en tout cas, c'est ce que vous espérez tous.
Évidemment, on est tous comme des fous. On espère qu'un truc, c'est le reprendre. Nous, à Angoulême, c'était 3 semaines de bonheur. Mais vraiment, on était tellement heureux, tellement heureux. Et moi, j'ai surtourné en plus pour une projection. Et je fais la fête là-bas. On a fait la fête avec Lionel et tout ça. Moi, j'adore cette ville. J'adore cette ville.
Bon, eh bien, en tout cas, promis, on vient vous voir sur le tournage du deuxième épisode, s'il y en a.
Ah oui, j'espère bien. Ah non, mais j'espère, parce qu'on a tellement rigolé. On s'est vraiment beaucoup amusé. Et puis c'est vrai pour le personnage, bon, il y a des choses souvent chez les acteurs, c'est les pompes, c'est les chaussures. Et quand vous avez des bottes de motard et tout de suite, il y a une démarche, il y a quelque chose qui se met dans la manière de parler, dans le phrasé.
On va découvrir au fur et à mesure quand même que Thierry a le nez fin.
Hein. Ah, c'est un flic qui est brillant, hein. C'est pour ça qu'il est rappelé en plus. Ah bon, il n'y a pas que pour ça, mais c'est pour ça qu'il est rappelé, parce que c'est un bon flic, avec des méthodes un peu expéditives.
Oui, des méthodes discutables par moment, en tout cas, on va bien rire en le voyant.
De la fiction.
Exactement, et puis c'est vrai que si ça marche, Thierry Chevalier va pas partir à la retraite tout de suite.
Ah, j'espère que non. J'espère que non, c'est notre plus grand souhait avec toute l'équipe. Ah oui, vraiment, c'est de reprendre.
Puis ce genre de fiction permet de prendre l'air aussi, ça fait du bien de s'éloigner aussi de studio, parce que Scène de ménage s'est tournée qu'en studio, donc on va en parler dans un instant, mais ça permet de prendre l'air.
Bien sûr, c'est super, c'était génial.
La manière forte, c'est donc sur France 2, dès vendredi à 21h10, pour ceux qui ne veulent pas attendre, qui ont envie déjà de le découvrir maintenant, là, parce qu'ils nous entendent et ils veulent absolument le voir maintenant, c'est possible. Sur France.tv, vous l'avez déjà
exactement.
En avant-première et gratuitement. Donc si vous voulez en tout cas aller le découvrir.
Ouais, mais vous ne serez pas déçus en plus, parce que c'est vraiment original. On n'a pas beaucoup vu ça à la télévision, vraiment.
On va écouter un petit extrait de la rencontre avec Clarisse au bord du barbecue, et puis on revient juste après pour parler de Scène de ménage. À tout de suite, Grégoire Bonnet, notre invité exceptionnel aujourd'hui. À tout de suite.
Bouge pas, pouilleux.
Allez, on embarque tout ce beau monde, là.
Non, on essaye d'échanger avec des témoins potentiels.
Pour enquêter, ils ont une manière bien à eux. La manière forte. Inédit, avec Grégoire Bonnet et Clarisse Lonibot, vendredi 6 juin, 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Voilà, et puis si vous en avez pas assez de Grégoire, eh bien captez-vous dès 20h30 sur M6, Scène de ménage, c'est la série qui nous enchante depuis plus de 15 ans. Et oui, ça fêtait ses 15 ans déjà, et oui, franchement. Et Grégoire, même si avec Amélie, vous avez rejoint tous les deux l'aventure en cours de route dans le rôle de Philippe et Camille, il faut dire que le public s'est tellement attaché à vous vite.
Alors au début, ça a été bon un petit peu. Il a fallu qu'on se cale tous les deux et tout ça avec les auteurs sur les personnages et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a été vite adoptés et que c'est encore un plaisir. Là, on était en lecture encore aujourd'hui et on a beaucoup rigolé. Demain, on tourne, donc c'est formidable. On a pris le train en route. Hein. Faut pas oublier. Hein, il y a 10 ans et on adore jouer. On adore se retrouver avec tous les copains, les techniciens, le HMC, habillage, maquillage, coiffure, les réalisateurs, les différents réalisateurs, la production qui fait tout justement pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour jouer dans Scène de ménage et également si on a d'autres projets à côté qu'on puisse les faire. Donc vraiment, la vie est belle.
Grégoire, au début, c'est vrai que le couple de Philippe et Camille, toutes les scénettes tournaient beaucoup autour de la différence d'âge. Et au fur et à mesure, ça s'est gommé tout ça. C'est un peu le couple de monsieur, madame, tout le monde maintenant qu'on retrouve. Et cette excuse de différence d'âge n'est plus palpable dans les histoires et dans les scénettes. Et ça, c'est une véritable évolution, c'est de pas faire de différence finalement.
Ben oui, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, on s'est beaucoup plus concentré sur nos métiers respectifs, sur nos copains respectifs, sur les différences de, pas les différences d'âge, mais les différences d'époque également. Alors, on a beaucoup travaillé sur des pistes, on a fait des séminaires avec les directeurs d'écriture pour arriver, à ce qu'on est maintenant, quoi. Et vraiment très vite, oui, il y avait une différence d'âge. Puis après, on a trouvé des pistes qui étaient encore plus intéressantes.
Pour ceux qui n'auraient jamais regardé Scène de ménage, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sur Philippe le pharmacien?
Moi, quand je suis arrivé, je sais que quand je suis arrivé, j'ai dit au directeur d'écriture, j'ai dit, je veux avoir tous les défauts. Et c'est pareil pour la manière forte d'ailleurs, hein. Il y a toujours un fond de truc. C'est que j'adore les gens qui ont des défauts. J'adore les personnages qui ont des défauts. Donc au début, c'était un personnage qui était quand même au début très vénal, qui adorait le fric, qui adorait les grosses bagnoles et tout ça. Puis petit à petit, il a un peu changé grâce à sa chérie, à Camille. Mais moi, j'avais demandé au début, et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'adore le pognon, d'ailleurs, comme beaucoup de temps, hein. J'étais un peu matu vu. Puis c'était l'époque de Sarkozy.
Faut oublier. Ça allait bien avec.
Non, mais vous voyez, c'est marrant comme les choses changent aussi après.
Ouais, c'est ça qui est chouette. Et puis, on a toujours, en tout cas, ressenti un amour inconditionnel de Camille. Elle l'aime même avec ses défauts, son Philippe.
Oui, mais c'est un bonheur. C'est super de jouer avec Amélie. C'est une complicité formidable. Puis on se connaît depuis 10 ans, donc on connaît des choses l'un de l'autre qui sont de l'ordre vraiment du privé. Et c'est ça qui est magnifique.
Il y a des primes en préparation?
Ouais. Alors je sais pas ce que je peux vous dire et pas vous dire, mais il y a des primes.
C'est toujours un cadeau. C'est toujours un cadeau, ça, de faire sortir vos personnages justement à l'extérieur.
Ah, c'est super. Et puis on s'amuse beaucoup. Les gens adorent les primes. De toute façon, que ce soit les spectateurs ou les comédiens, on adore les primes, ça nous permet de sortir un peu des studios, se balader et tout ça. Donc on a fait des trucs vachement sympas. On est allé à La Réunion, c'était vachement bien. Et là, on a tourné dans un château aussi, c'était super, où on a pu tous se rencontrer un petit peu, les personnages. Et là, il y en a deux ou trois qui se préparent. Je peux pas vous dire les thèmes, parce que je les connais même pas. Mais apparemment, les primes, je sais pas. Si c'est friand.
C'est déjà.
Ils ont friand.
C'est déjà une bonne nouvelle, en tout cas, mon cher Grégoire. Il faut dire que quand la série a démarré, que ça soit Audrey Lamille ou Denis, enfin, tous ceux qui ont participé à l'aventure du début, les 6 qui étaient là au début, ne savaient pas dans quoi ils allaient s'embarquer, ni le succès que ça allait avoir. Vous êtes arrivés 5 ans plus tard avec Amélie, tous les deux, avec déjà un gros succès sur la série. Comment vous l'avez vécu, ça, tous les deux, cette notoriété soudaine d'être invités tous les soirs à la table des Français sur M6, avec certainement une des séries les plus regardées sur ce carrefour-là. Comment vous l'avez vécu tous les deux?
Nous, on était très fiers de rentrer scellé, puisqu'il y a eu des castings et tout ça. Donc, on était très fiers et on voulait faire aussi bien que nos aînés. On les appelle des historiques, d'ailleurs, que ce soit Gérard, Marion qui nous a quittés, Lou Denis, Audrey, et Valérie et Frédéric. Et tout d'un coup, c'est vrai que la notoriété, c'est quelque chose qui est marrant, un peu flippant, un peu étonnant. Je sais pas très, très bien quel est l'adjectif. En plus, quand j'ai commencé Scène de ménage, je commençais une autre série qui s'appelle Nina.
Oui, sur France 2.
Sur France 2, j'étais au théâtre le soir. Donc, c'est-à-dire que les tournages, j'étais en alternance avec Nina et Scène de ménage avec des tournages le soir. Avec le soir, j'étais avec Chantal là-dessous. Et ça a été génial, mais très éprouvant, mais génial.
Eh oui, effet immédiat. Scène de ménage, en tout cas, c'est la capsule de rire dont on a besoin tous les soirs à 20h30. Et on peut tous s'identifier avec tous ces couples que l'on a à l'antenne chaque soir, en tout cas. Puis vous allez accueillir bientôt les petits copains de Nouveau Jour aussi sur M6 avec qui vous avez partagé l'antenne. Et c'est vrai que voilà, ça va être de chouettes moments. En tout cas, La Manière Forte, c'est aussi vendredi. C'est à 21h10. C'est sur France 2 ce coup-ci, et c'est déjà aussi sur France.tv, je le répète pour ceux qui veulent tout de suite y aller voir. Un grand merci Grégoire, bientôt du théâtre, les projets, on termine avec ça.
Des projets dont je ne peux pas parler, zut alors.
Eh ben ça sera l'occasion de revenir.
Exactement, et de passer un super moment avec vous comme d'habitude.
Eh ben allez, Paris tenu et rendez-vous marqué. Merci beaucoup. Grégoire, à très vite.
Merci, salut, à très vite, au revoir.
Et on va pas se quitter comme ça, on va écouter un petit morceau de Philippe et Camille dans leurs œuvres.
Et bonne Saint-Valentin, mon amour.
Tu sais, je suis allé chez le fleuriste et je voulais t'offrir un grand bouquet de roses.
Ouais.
Mais il m'a dit qu'elle venait d'Éthiopie, tu vois, plus de 10 000 kilomètres d'ici. Je me suis dit, niveau empreinte carbone, c'est pas terrible.
Et tu les as pas prises?
Non. Oh. Non, je pense à la planète.
Oh, c'est super. Oh, ça, c'est très, très bien. Bravo, mon amour.
Et puis, je voulais aussi t'offrir un joli bracelet en or, mais l'extraction d'or, bon, tu vois, c'est un peu polluant quand même, tu vois. Donc, je l'ai pas pris non plus.
D'accord. Donc, tu m'offres rien?
Ben non.
Vraiment?
Voilà. Rien du tout, non.
Oh. Allez, notre coup de cœur plateforme cette semaine, vous savez, consacré à Zonze, qui vient d'être mise en ligne sur France.tv. On en a parlé jeudi dernier dans la quotidienne. Et aujourd'hui, c'est Tiffaine Davio qui vient nous en parler, justement. Bonjour, Tiffaine.
Eh oui, bonjour.
Une habituée de l'émission qu'on a toujours tellement plaisir à entendre avec nous. Et là, tu joues un rôle complètement différent de ce qu'on a pu voir, hein, effectivement, après HP sur OCS. Là, tu joues le rôle d'une matone. Et alors, on va dire qu'elle n'est pas très réglementaire toujours, hein, cette matone au Grèche.
Elle n'est ni sympathique, ni dans les règles de l'art. Elle fait un peu comme ça l'arrange, ouais.
C'est
elle
ça qui t'a plu? Justement, dans ce rôle?
Ah ouais, à fond. Moi, je suis trop contente. Moi, j'ai envie de tout jouer. Donc, c'est marrant. On me demande souvent ce que je veux jouer comme rôle prochainement. Et je suis là, je sais pas. Surprenez-moi. Ce qui est génial, c'est de pouvoir tout faire, en fait. Je voudrais autant être présidente de la République que cosmonaute. Donc, enfin, bref. Donc, la gardienne de prison, ultra violente et méchante. Et en plus, c'est une méchante un peu sale dans le sens où elle est, c'est vraiment une petite personne, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'attaque qu'aux faibles, évidemment, jamais aux forts et tout. Et il y a un truc que j'aime bien, moi, là-dedans, dans un truc un peu minable de l'être humain. Ouais. Et en même temps, ce qui est cool, c'est qu'elle a aussi ses raisons, comme probablement beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a quand même, je dirais pas une rédemption loin de là, parce qu'elle va quand même très très loin. Mais en revanche, on a une toute petite fenêtre aussi sur le pourquoi du comment et pourquoi elle en arrive là, quoi.
Alors dans cette série, on va y suivre en fait des jeunes qui ont un peu trop regardé Prison Break peut-être à un moment donné. Et donc on va y suivre l'arrivée d'Alice, 17 ans, qui arrive dans le quartier pour mineurs de la prison. Et évidemment, c'est le choc des cultures. Et là, sa maman en plus qui est malade, et elle va accepter un pacte, infiltrer un groupe de jeunes détenus qui planifie une évasion. Et donc elle va essayer, elle en tout cas, on va lui donner la possibilité de les trahir pour obtenir sa liberté. Et puis bah évidemment, les sentiments vont s'en mêler et Alice va se trouver à l'heure des choix à un moment donné et le personnage d'Audrey va pas lui faciliter la tâche. C'est bien dit ?
Oui, c'est parfait. Ouais, je suis très mauvaise en pitch, là je trouve ça incroyable. C'est bon. Très fort, alors bravo.
En tout cas, Zonze, ça débarque sur France.tv, donc déjà dans un premier temps. On espère peut-être le voir sur France 4 aussi, peut-être prochainement. Mais c'est disponible en intégralité. Il y a un casting de fou autour, hein, justement, de ces jeunes. Alors, on va y découvrir Mona Claude, qui est vraiment géniale. Il y a Roman Dodwick, il y a Fauve Otto, Camille Chamou aussi à tes côtés dans ce personnel de prison. Ouais. Ça a dû être de belles rencontres, là aussi.
Ouais, c'était de belles rencontres. Bah Camille, moi j'ai déjà pas mal tourné avec elle, on se connaît bien dans la vie y compris, donc ça c'est toujours un plaisir de la retrouver. Et non, c'était super, l'ambiance était au top. On était tous dans cette prison dans l'Est, là, fin fond de la campagne, à Bar-sur-Aube, en novembre, je vous laisse imaginer.
Ah oui, il n'y a plus de Miglolande là-bas, hein. Bar-sur-Aube en novembre, il n'y a plus de Miglolande.
Exactement, tout le monde parlait que de ça et j'ai pas pu y aller. À Paris, c'est super. Mais non, c'était top.
Bon, Tiffaine, c'est vrai que t'as eu énormément de rôles différents dans ta carrière à jouer pour l'instant. Et c'est vrai que c'est toujours un véritable plaisir de te voir dans des rôles complètement, des fois, à contre-emploi. Et je parlais d'HP, mais on peut parler d'Une belle histoire, qui est une comédie romantique. On peut parler de plein de choses différentes ou des rôles beaucoup plus noirs aussi. C'est ça, c'est toi, t'es vraiment l'archétype parfaite de la comédienne qui a jamais été enfermée dans un rôle, quoi, finalement.
Non, c'est vrai. Et c'est un truc auquel je tiens énormément et que j'ai très peur de perdre ça. Mais du coup, je suis ravie de voir que je peux toujours m'exercer un peu partout. Moi, je viens du théâtre et je crois qu'il y a un truc où au théâtre, j'ai déjà joué des vieilles dames ou des hommes. Enfin, il y a un truc où on c'est infini. Le choix est infini et c'est vrai que j'ai pas envie de perdre ça. C'est plus complexe à l'écran, bien évidemment. Il n'y a pas la même partie, imagination, etc. Mais j'ai très, très envie de garder cette liberté-là et de pouvoir faire le grand écart de salle de ambiance. Juste avant, j'avais fait Ghost aussi, où je faisais une moyenâgeuse.
Ouais, sur Disney, qui est sur Disney+.
Avec des dents cariées et tout. Et voilà, enfin moi, plus je peux m'éclater et aller dans des choses très diverses et moins je m'ennuie, plus je me renouvelle, plus je me fais des défis. Et ça, je trouve ça génial.
Bon, cela dit, en tout cas, là, on va te voir effectivement dans ce joli rôle. Ça s'appelle Zonze, dans le rôle d'Audrey. Et vous allez voir que vous allez découvrir Tiffaine, peut-être comme vous l'avez jamais vue. Enfin, en tout cas, voilà, on verra bien.
Vraie face, finalement.
Écoute, tous ceux qui ont tourné avec toi, ils m'ont toujours dit, oui. Tiffaine, c'est un bonheur de tourner avec Tiffaine Davio parce qu'elle a une énergie à revendre.
C'est trop sympa.
Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Tous ceux qui ont tourné avec toi, ils disent c'est génial de tourner avec elle. Donc, ça, c'est top. T'as des projets, justement, Tiffaine, Murder Club, est-ce qu'on va voir la suite sur M6? Je crois qu'il y a des nouveaux épisodes de commander ou pas?
Non, malheureusement, il n'y aura pas de suite. Là, on était très tristes avec Eric Cantona. On attend de savoir très imminemment pour Ghost saison 2, justement.
Ouais.
Et là, moi, je suis sur un... Enfin, je viens de finir Belphégor pour HBO.
Ouais.
Et M6 avec
aussi, d'ailleurs.
Et M6, exactement, en double diffusion, tout à fait. Et là, je suis sur un long métrage, le prochain film Daniel Jaoui, voilà.
C'est la donc classe internationale.
Ouais.
Bon, écoute, tu reviens quand tu veux, en tout cas tu le sais, et puis on va te découvrir dans Zonze. Voilà, vous pouvez y aller directement, vous pouvez binge-watcher, comme on dit aujourd'hui, la série, c'est 8 fois 30 minutes, et c'est sur France.tv. Merci beaucoup, Tiffaine.
Merci beaucoup, Alain.
Et on va se quitter avec la bande-annonce, à très vite, on t'embrasse.
Vous ne sortez pas aujourd'hui, Hassine, il y a eu une erreur.
Non, c'est mort.
On s'évade ou quoi ?
J'ai un master plan.
Ça fait des générations et des générations qu'on pratique l'évasion dans ma famille. Moi, je suis né pour ça, moi, t'inquiète.
J'arrive pas à savoir si c'est ingénieux ou complètement con.
On attend la nuit. On creuse un tunnel sous les cellules. On va direction S, parce que sinon, on arrive sous la salle de sport. On récupère un filet de balle de ping-pong. On en fait une corde.
Un tunnel ?
Oui.
Au deuxième étage.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je pars quand le jour se lève, la tête, la valise remplie de rêves. Qui joue à pincer mon cœur quand s'éloigne trop vite le train vapeur. J'ai eu mille fois le courage de partir, mille et une fois l'envie de revenir. Quand je suis perdu, vous êtes ma boussole qui guide mes peines et qui me console. Cette route est peut-être la mienne, des allers retour à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Personne ne m'a dit de partir. La dernière chose que je veux, c'est trahir. C'est vrai, je donne moins de nouvelles, mais j'oublie pas ce qu'on nomme les fidèles. Et j'imagine ce que font les amis, les discussions de ceux qui sont jamais partis. Et quand arrive l'orage, le déluge, vous êtes mon équipage, mon refuge. Cette route est peut-être la mienne, des allers-retours à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Encore un jour où je suis si loin. Encore un tour, un dernier train je crois. Encore un jour mais dès demain je reviens chez moi. Encore je cours soir et matin. Encore un tour, c'est un peu vain tout ça. Encore un jour et je reviens. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. J'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Le Répondeur qui sort mercredi dans les salles avec Fabienne Godet, la réalisatrice qui est avec nous. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a pu découvrir ce film il y a maintenant quelques mois au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez où c'est un film qui mélange comédie, imitation. Ça ne s'était jamais trop vu. On va y suivre l'histoire d'un romancier qui va faire la connaissance d'un stand-upper, comme on peut dire un peu aujourd'hui, imitateur sur scène. Il va tomber un peu sous son charme, en quelque sorte de son talent, et va lui demander de répondre à son téléphone à sa place. Et ça va créer tout plein de situations très drôles, évidemment, avec beaucoup d'émotions aussi. Et un Salif Cissé, une révélation.
Oui, Salif, c'est vraiment une révélation. Quand je l'ai choisi parmi d'autres comédiens qui étaient très bien, sauf que Salif, il a quelque chose en plus, il a un charisme, il a une douceur, une certaine féminité aussi en fait. Et je trouvais qu'il pouvait porter admirablement bien en fait sur les épaules ce rôle qui est hyper difficile parce que ça lui a demandé un travail énorme puisqu'en fait le rôle qu'il interprète c'est à la fois un imitateur de voix parlée, de voix chantée et effectivement comme vous dites de stand-up en fait. Et il fallait que je crée un duo avec ce personnage d'écrivain. Et la rencontre entre Denis et Salif, c'était quelque chose. Il y avait comme une alchimie en fait qui. Et ils étaient tellement heureux en plus de pouvoir tourner ensemble. Moi, je savais pas qu'ils se connaissaient. Que l'alchimie, voilà. Le cœur du film, c'est ce duo en fait, cette rencontre.
Il y a une magie qui opère à l'image, qui est assez flagrante en tout cas entre ces deux personnages. Comment est venue l'idée du film Le Répondeur? Parce que je crois que c'est une adaptation d'un livre, hein, si je me souviens bien.
Oui, c'est l'adaptation d'un film de Luc Blanvillain. Et c'est en fait mon producteur Bertrand Fèvre qui avait lu ce livre, et à la moitié, en fait, il a fait une option. C'est-à-dire qu'il a même pas terminé le livre, qui s'est dit, l'argument est génial. Il l'a fini après, évidemment, mais il a mis tout de suite une option, et bien que je ne sois pas une réalisatrice de comédie, je suis pas en tout cas reconnue comme ça, il me l'a proposé. Il me l'a proposé parce que on y retrouve, malgré tout, les thèmes sur la rencontre, sur la transmission, sur l'importance justement d'une rencontre, comment une rencontre peut changer la vie en fait, qui est une thématique qu'on retrouve dans tous mes films.
C'était un challenge en quelque sorte.
C'était un challenge, disons, de prendre en fait des thèmes qui me touchent, qui m'ont toujours touché, et de les traiter de manière avec le sourire, sous forme de comédie, puisque c'est ma première comédie en fait.
Alors c'est vrai que il y a des situations qui prêtent vraiment à rire, et puis il y en a d'autres qui prêtent à beaucoup d'émotions, surtout entre la rencontre entre Salif et puis le personnage de Elsa aussi qu'on va découvrir, parce que le personnage de Salif du coup va tout savoir de la vie de ce romancier connu qui lui va se décharger totalement sur lui, et du coup le personnage de Salif va prendre quelques petites libertés aussi, c'est ça qui va amener toute cette drôlerie.
Ouais. Il va prendre quelques liberté et il va en quelque sorte développer le personnage de Chosen, c'est-à-dire qu'il va faire des choses que Chosen ne se serait jamais autorisé. C'est ce qu'il dit à la fin, c'est qu'en fait, il lui a rendu sa liberté, puisque Chosen était totalement, en fait, complètement enfermé dans ce statut d'écrivain célèbre. Et les libertés qu'il va prendre, parce que du coup, il n'est pas en lien, en fait, avec les gens, donc il s'en fiche un peu. Et puis, il va faire des belles choses, en fait. Il va faire des belles choses parce que...
Il va débloquer certaines situations. Pour pas en dire plus, il va en bloquer certaines autres, qu'il faudra débloquer par la suite évidemment, mais c'est ça aussi.
Mais il va en débloquer beaucoup quand même. Il va en débloquer beaucoup puisqu'il va permettre quasiment à chacun de se réaliser. Donc c'est vraiment un espèce de petit personnage comme ça avec une petite baguette magique et qui l'air de rien va donner de la liberté à chacun des personnages. Chacun va pouvoir se déployer de manière différente en fait. Et sur le changement par exemple, c'est vrai qu'on est tous un peu dans une répétition. C'est difficile de se réinventer avec ses enfants, avec sa famille, avec ses parents, avec ses amoureux, ses amoureuses et tout. Là, lui, il part vierge, donc il y réinvente tout. Et c'est ça qui est génial, quoi. On aurait tous envie, à un moment donné, de confier notre portable à quelqu'un et de dire si tu pouvais régler 2-3 problèmes, voilà.
Fabienne, c'est un certain fantasme que vous êtes en train de nous donner à travers ce film, justement, de donner son portable. Et vas-y, réponds à notre place. Ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on a tous, on essaye tous de trouver des solutions pour essayer un peu de se détoxifier de ça. Et c'est très compliqué. C'est vrai que ce film, donne ce certain fantasme quelque part. On va écouter la bande-annonce ensemble. Le Répondeur, ça sort mercredi au cinéma. Et on revient juste après avec Fabienne Godet, la réalisatrice. À tout de suite.
Pierre Chosen, je suis...
Je sais qui vous êtes.
J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça.
Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur.
Il est dingue quand même ce mec, non?
Ce que vous proposez est complètement pervers.
Tu te vois, toi, faire un truc pareil?
Votre réputation.
Ma réputation.
Personne peut tromper ses proches.
Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question.
Ouais, papa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais.
C'est pas grave.
Allez, on revient pour notre spécial Le Répondeur. Fabienne Godet, la réalisatrice, est avec nous. Il y a un très beau casting autour de Denis Podalydès et de Salif Cissé. On peut citer Manon Clavel, bien sûr, et bien d'autres encore.
Oui, en fait, quand j'ai écrit, je voulais que chaque acteur soit singulier. Et j'ai eu tout de suite l'idée de Horatica. Je trouve que Hor, elle a une grâce, en fait, naturelle. Une espèce de présence comme ça qui est très très belle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait tous les personnages féminins sont vachement plus libres que les personnages masculins. Et donc c'est vrai que tout de suite j'ai eu l'idée de dehors pour interpréter le rôle de Clara. Et après j'avais vu Clara Brotteau dans le rôle de, enfin dans Les Amandiers. Pareil, comédienne très très singulière, avec ses cheveux roux, ses grands yeux, ce teint comme ça très très pâle. Et je trouve qu'elle ressemble à aucune autre. En fait, vraiment, je cherchais à chaque fois des visages, des sourires ou des rires. Et pour Manon, par exemple, Manon, elle a un rire, elle a un, enfin, ils ont tous, de toute façon, un sourire adorable. Moi, j'adore tellement les gens qui sourient. Et Manon, elle a un rire qui est hyper communicatif, quoi. C'est vraiment la meilleure pote de Baptiste. Ismaël, lui, je l'adore. C'était drôle parce que quand j'ai été chercher Ismaël, il me dit, mais d'habitude, on me donne des rôles soit de gangster, soit de mec banlieue, soit de garde du corps. Et il était très étonné que je lui confie en fait un rôle comme ça de directeur de théâtre. Et ça, l'idée de donner un contre-emploi à un acteur, c'est super. Pour lui, c'est un cadeau. Harrison Arevalo, bah lui, il est pareil, extraordinaire, quoi. Et il est tout l'inverse de ce qu'il joue dans le film. Il est tellement gentil, tellement doux. Ouais, complètement l'inverse de ce qu'il joue vraiment le con, quoi. Ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que c'est un casting qui est aussi très international, l'air de rien. Puisque Harrison, il est chilien, je crois. Serge, il est canadien. Salif, il est français, bien sûr, mais d'origine Sénégal, Mali. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est drôle comment je réunis comme ça des différentes parties du monde pour composer ce casting. Mais vraiment, ma ligne, en fait, artistique, c'était d'aller chercher chaque visage, mais vraiment la singularité, en fait. C'est ce qui fait peut-être que les gens me disent, le film est très singulier. Et je pense que c'est aussi grâce aux acteurs qui sont, eux, singuliers, en fait.
Pour les plus perspicaces, on notera que un des personnages, donc c'est Manon Clavel qui l'incarne, qui est une des meilleures amies de Baptiste. Le théâtre, oui, porte le vrai nom de l'actrice. Oui. C'est un petit clin d'œil ou pas?
Non.
Ou pas voulu?
Non, c'est complètement au hasard. C'est complètement au hasard. On a vu beaucoup, beaucoup de théâtre. Et en fait, les jeunes imitateurs, en fait, quand ils démarrent souvent dans des petites salles. Mais moi, pour tourner, il me fallait quelque chose d'un peu intermédiaire. Et on a fait beaucoup, beaucoup de théâtre à Paris. Et puis je suis tombée sur celui-ci. J'aimais bien l'idée, en fait, en plus de la scène comme ça en bas. Je voulais pas avoir une estrade. Je voulais que ça soit directement accessible. J'avais en fait en tête la scène, et donc c'est tombé vraiment par hasard. Mais il y a un truc que vous dites qui est très juste, et que pareil on me disait, c'est que c'est en fait un film qui convoque le théâtre, la musique, la littérature.
Beaucoup de talents différents et coachés par Michael Gregorio, qui a une part importante dans le film, parce que même si on ne le voit pas, Salif a été doublé à certains moments ou jamais, où il a été entraîné surtout par Michael.
Alors, première chose, c'est qu'en fait, quand j'écrivais, j'ai fait lire les premières versions à Michael, qui lui m'a dit, oh là là, ton challenge, il est énorme, il est énorme. Et du coup, il m'a beaucoup parlé d'abord ses débuts, ce qui fait que ça m'a permis, moi, de réécrire, d'être plus juste, en fait, en tout cas, de ce qu'est la vie d'un jeune imitateur. Et ensuite, Michael, il a coaché Salif pour qu'il se rapproche le plus possible de la voix de Denis. Et ensuite, en post-synchro, Denis a été vers Salif. C'est-à-dire que chaque acteur a été, en termes de voix, l'un vers l'autre. C'est ce qui fait que la voix au résultat n'est ni la voix de l'un, ni la voix de l'autre. C'est la voix, un mélange des deux, avec des gens en post-synchro, pas en post-synchro, en montage son, ils ont fait de la dentelle. Et on a travaillé de manière artisanale. Vraiment.
C'est incroyable.
C'est tel en fait qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail incroyable. Tellement incroyable que j'ai décidé au générique, je sais pas si vous avez fait attention, mais de les mettre avant l'image. Je voulais rendre hommage au son en fait parce que c'est un film de son. Et ensuite, Salif, quand je disais qu'il a travaillé mais comme un ouf, c'est que il a dû apprendre tous les textes, toutes les chansons, tout ce qui était avec sa voix, sans sa voix. Il fallait qu'il chante vraiment. Parce que Michael me disait, s'il ne chante pas, ça va se voir, ça va être du playback. Et il y a des moments dans le film, moi, qui me touchent énormément. Alors, je sais pas si je peux les dire, mais quand il interprète notamment Diego de Johnny Hallyday, il est bouleversant, Salif, parce que je vois Johnny, il chante vraiment, en fait. Et après, il y a eu un travail où Michael, mais pas que Michael, il y a eu Eclipse. Eclipse est un imitateur des voix des rappeurs. Fabien Lecastel, qui est un imitateur belge, c'est lui qui fait notamment Johnny et Bachung. Voilà, et en fait, Salif, il a travaillé avec ces trois imitateurs. Donc c'est un travail gigantesque, parce que faut pas seulement travailler sur la voix, il faut aussi travailler sur le corps.
Vous n'avez pas choisi à facilité hein, pour une première comédie, en tout cas Fabienne, mais en tout cas le pari est réussi parce qu'à l'image c'est très très chouette ce qu'on va y voir. Et donc Le Répondeur, ça sort mercredi dans les salles. On ne le rate pas, c'est votre nouveau film Fabienne. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à bientôt.
Oui, merci.
Bonsoir Nathalie.
Ça me fait trop de t'entendre prononcer mon prénom.
Méfiez-vous d'elle, c'est un crotal.
Allô?
Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible.
Comment ça, ça va plus être possible?
À quoi vous jouez, Baptiste?
Vous m'avez demandé d'improviser. J'ai improvisé.
Tout va bien?
Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi.
On continue.
Je vais te pourrir la vie, Pierre.
On continue.
Mon livre n'est pas encore commencé.
Et vous faites quoi de vos journées?
Je vis.
C'est juste une question. Si je veux joindre Pierre, j'appelle Baptiste.
Salif Cissé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'histoire de ce comédien qui va être emmené dans un espèce de tourbillon avec ce romancier en perte d'inspiration qui va se retrouver et ben aller répondre à sa place à son téléphone. C'est un festival de rire, d'imitation. C'est incroyable comme défi ce que t'as relevé là, Salif.
Bah écoute, merci. Merci beaucoup de dire ça. En tout cas, il était de taille. J'ai été rudement bien aidé par une team de coachs exceptionnels que j'appelle des cascadeurs de la voix. Parce que vraiment, 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 ils m'ont porté. Je remercie énormément Fabienne aussi d'avoir cru en moi et d'avoir cru que je pouvais relever ce défi. Donc ouais, c'est fou, c'est fou. Et que ça plaise au public. Non mais c'est, il n'y a pas à dire, c'est un truc de fou quoi.
Alors comment tu t'es préparé justement à ce rôle ?
J'ai eu beaucoup de temps avec Michael Gregorio, qui faisait partie de ma team de coach, Michael Gregorio, Fabien Lecastel, Eclipse. J'ai eu de l'aide aussi d'un coach d'interprétation qui s'appelle Zakaria Gouram, qui m'a beaucoup aidé parce que le film est très fleuve. Je pouvais pas m'en sortir tout seul, c'était sinon des pages de brouillon. C'est des parchemins qui allaient envahir mon appart. Heureusement qu'ils étaient là pour moi et pour rendre ce travail aussi fluide et naturel quoi. Et même mon ami Anis Rally est venu me donner un coup de main sur le spectacle. Donc voilà, je me suis préparé comme ça avec des gens, c'est un travail d'équipe. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus.
Donner un réplique à Denis Podalydès, dingue quand même de la comédie française.
Denis Podalydès de la comédie française. Non mais en vrai, je sais très très bien pourquoi maintenant on le dit ça de la comédie française. Non, en vrai c'est un comédien exceptionnel. C'est un comédien monstrueux qui fait tout vraiment de manière excellente et avec une facilité déconcertante parce que le premier jour moi que j'ai joué avec lui, je suis rentré chez moi et je me suis dit qu'il fallait quand même que je muscle mon jeu parce que en face j'ai pas quelqu'un qui doit c'est pas quelqu'un qui va forcément jouer pour moi même s'il est très très généreux, c'est quelqu'un qui conduit la fusée et si t'es pas dedans, bah t'es pas dedans quoi. Et franchement c'est le meilleur conducteur que j'ai rencontré parce que j'ai trop aimé jouer avec lui.
À aucun moment t'as douté, à aucun moment t'as eu peur du défi?
Bien sûr que si j'ai douté parce que on n'a jamais assez de temps pour relever des défis comme celui-ci. Donc il faut trouver des chemins de traverse, faut trouver des raccourcis. Heureusement j'étais bien entouré et on l'a fait, on l'a réussi au bout de ma santé des cordes vocales, au bout de plein de choses. Mais bien sûr qu'il y a eu du doute, mais quand on a une équipe comme ça, on peut pas se le permettre.
Quelle est ta scène préférée?
Ma scène préférée, je pense qu'il y en a deux. C'est, je pense qu'il y en a plutôt deux. Il y a la première, c'est une succession de scènes où j'apprends justement à faire la voix, parce que c'était un peu une mise en abîme de ce que je vivais juste avant, un truc un peu seul, mais avec la voix de Denis tout le temps dans un casque, enfin quelque chose de très joyeux et laborieux. Et donc la voir en film, c'est encore plus joyeux pour moi. Et la dernière, parce que c'était très émouvant. C'est la dernière scène où on est au spectacle et le film. Voilà, j'ai Denis en face de moi qui me regarde. En fait, j'avais l'impression de vraiment lui dire au revoir. Et il y a des moments comme ça dans sa vie d'acteur où on a l'impression que la fiction rejoint la réalité. Et là, je lui disais peut-être vraiment au revoir avant la prochaine fois qu'on puisse vivre une aventure de jeu ensemble. Donc voilà.
La boucle est bouclée parce que le film va appartenir au public à sa sortie en salle. Tu as obtenu au nom de toute l'équipe aussi le prix du public au Festival de Alpes d'Huez. C'est totalement surréaliste, mais quel bonheur.
Quel bonheur. Franchement, il n'y a pas meilleur prix selon moi. Je pense que quand on fait ce métier, surtout moi qui est un homme de théâtre, je vis pour le public, j'y pense tout le temps et j'ai ramené cette douce maladie aussi sur les plateaux de cinéma. Moi, je pense tout le temps à la réception publique, pas à m'en rendre malade, mais parce que je sais qu'on le fait pour eux. Comme dirait, je sais pas, un grand comédien que j'ai connu il y a longtemps, on fait pas du théâtre pour être dans sa chambre. En fait, on le fait pour l'offrir aux gens, et que ce soit théâtre ou cinéma, voilà, c'est un art qu'on offre, c'est pas un art qu'on garde pour soi.
Vous voulez voir des comédiens qui jouent, vous voulez voir de l'imitation, vous voulez voir vraiment du beau film, eh bien allez voir Le Répondeur au cinéma. Salif, merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, oui.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera une spéciale vacances forcées, le nouveau film de François Prévost-Légonie et Stéphane Archinard qui seront avec nous. Mais ils ne seront pas tout seuls, ils viendront accompagnés de Horatica, Clovis, Cornillac, Pauline Clément et Bertrand Huskla. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.